Bien, bonjour. Merci pour cette invitation. Merci aussi pour cette présentation. Quelques préalables. Alors, effectivement, dans nos échanges avec Catherine Loisy, j'avais proposé une série de choses qu'elle a acceptées. Et du coup, je me retrouve un peu ennuyé. Parce que le temps est contraint pour parler de chacune des choses. Donc j'irai assez rapidement sur certaines d'entre elles, quitte à ce qu'on profite du temps de la discussion, du temps des repas, du temps des pauses, etc. Donc voilà, toutes mes excuses, ça fera un peu patchwork. Et dans tous les cas, j'essaierai de montrer sur... Les points qui sont évoqués, les questions que ça pose, les intérêts, les écueils, etc. Alors, quelques repères pour voir sur quoi je m'appuie. Donc, j'ai dirigé pendant 16 ans un labo qui a travaillé avec beaucoup d'enseignants et qui, dans le Nord-Pas-de-Calais, a été le premier labo associé à ce qui s'appelait l'IUFM à l'époque. Et un certain nombre de thèses soutenues et d'HDR, ce qui n'est intéressant en fait que parce que nombre de mes étudiants étaient en même temps enseignants. Donc la question du rapport entre enseignement et recherche s'est posée assez régulièrement, sous des formes parfois différentes, mais du coup c'est assez intéressant. Une recherche dont je dirais quelques mots, qu'évoquait Catherine Loisy sur lire et écrire des scènes romanesques au collège. Voilà, c'est une recherche dont je vous en parlerai, qui articulait un peu lecture-écriture. Une chose qui est plus connue, qui reste connue, c'est la recherche sur l'école Freinet, dans un milieu très défavorisé de la banlieue lilloise. C'est, à ma connaissance, la plus grosse recherche empirique sur une pédagogie alternative, puisqu'on a travaillé 5 ans dessus, ce qui nous évite de raisonner par a priori et sans trop de données, comme le font beaucoup de gens, y compris certains de mes collègues, dont je tairai les noms. 2011, c'est le rapport sur les expérimentations liées à l'article 34, ce qui est intéressant parce que ça nous a permis de consulter énormément de dossiers d'équipes qui expérimentaient dans toutes les académies, et de passer beaucoup d'entretiens, et donc de mieux comprendre ce qui faisait que les gens rentraient dans les expérimentations, et aussi les problèmes qu'ils rencontraient. Une recherche sur la conscience disciplinaire, c'est-à-dire la manière dont les élèves reconstruisent les disciplines, avec le fait que pour nombre d'entre eux, ça reste opaque ou ça reste des lieux de malentendus. Une recherche sur l'erreur, et il n'y a pas d'erreur d'orthographe sur penser l'erreur, hein, c'est volontaire. En revanche, je vous signale qu'il y a différentes coquilles dans le PowerPoint, puisque je suis en but depuis plusieurs jours à des problèmes informatiques liés à des mises à jour Windows qui me posent problème. Voilà. Et vu que je ne suis pas une bête en informatique, vous voyez, c'est je vis très difficilement avec ça, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et puis la dernière recherche qui a été publiée, c'est le vécu des disciplines scolaires, c'est-à-dire en quoi les sentiments et les émotions que les élèves associent aux disciplines génèrent du décrochage ou de l'accrochage scolaire. Et là, effectivement, deux recherches en cours, l'une sur l'auto-formation coopérative des enseignants. Et là, c'est assez intéressant parce que je vous en reparlerai aussi. C'est un groupe d'enseignants qui se forment hors institution et hors mouvement pédagogique. Donc, vous voyez, c'est normalement, ça échappe à la vision. Il se trouve que c'est l'avantage d'être depuis très, très longtemps dans une académie et d'avoir de bonnes relations avec les enseignants. C'est, on peut assister à leurs réunions, on peut assister à leurs... On a accès à leur Dropbox, etc., etc., ce qui est quand même assez rarissime. Et dernière recherche en cours, c'est les fonctionnements de l'école Vitruve, hein, qui est une des plus anciennes écoles alternatives de l'Académie de Paris. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui est encore expérimental? Et comment on peut faire pour évaluer tout ça? Donc, vous voyez, ça rencontre un certain nombre de vos préoccupations. Et je fais une petite parenthèse. Bien sûr que les représentations sont résistantes. Sans ça, ça n'en serait pas. Donc, c'est absolument normal. Donc, voilà. Excuse, je réitère mes excuses. Ça fait un peu catalogue. Il y aura sans doute des choses que certains connaîtront, d'autres moins. Donc, voilà. Désolé pour ça. Alors, premier point que je vais traiter. En fait, ça ne m'intéresse pas de faire des typologies de recherche. Hein. Je sais que ça permet d'écrire beaucoup d'articles. Mais il me semble que dans les recherches qui nous intéressent, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toujours deux pôles en tension et que les recherches sont plutôt positionnées vers l'un ou vers l'autre. C'est une sorte de continuum et il faut voir où on met le curseur. Alors, vous avez un pôle qui est l'absence de modification des pratiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher aux pratiques des enseignants. On va fonctionner, voilà, en observant. On va fonctionner aussi avec des entretiens, des questionnaires. Alors, quand je dis absence de modification, il y a toujours des modifications, hein, dès qu'on observe, etc. Mais c'est ce qu'on avait fait pour la recherche sur l'école Freinet. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de comprendre les pratiques et leurs effets sans les modifier. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important, notamment pour des recherches qui parfois se veulent un peu évaluatives ou qui portent sur des objets contestés. Hein, c'était le cas avec la recherche qu'on a effectuée sur l'école qui pratiquait la pédagogie Freinet, qui se trouve très souvent très, très critiquée. Et un des enjeux, c'était véritablement de comprendre ce qui était mis en place sans modifier pour voir les effets de ces pratiques et non pas des pratiques telles qu'elles peuvent être modifiées par les chercheurs. Voyez, donc il y avait là un souci au niveau analyse et un souci du respect du travail des enseignants, même si c'était très très difficile parce que pendant 2 ans on ne leur a pas fait de retour. On venait, on observait, on faisait des entretiens, etc. et tout. Donc ça a été très difficile pour eux, parce que c'est quand même casse-pied de voir des gens arriver dans les classes et regarder. Donc je les salue encore. Et c'était difficile pour nous aussi de tenir ce silence, y compris du point de vue publication. J'ai dû taper du poing sur la table pour que les collègues ne publient pas au début, parce que voilà, il s'agissait de ne pas modifier les pratiques. Donc vous voyez, c'est quelque chose de compliqué, mais très très intéressant. Le tout étant de savoir comment rendre supportable ce silence-là. Hein, donc c'est un truc un peu compliqué. Et là, les moments de convivialité sont quelque chose d'important. Alors après ça, vous avez effectivement l'autre pôle qui est celui où on va modifier les pratiques des enseignants. On a impulsé d'autres. Ça se fait en fait beaucoup. Alors on parle de recherche-action, de recherche-intervention, de situation forcée. Il y a des tas de termes, etc. Bon. Et là, c'est intéressant parce que l'idée, c'est effectivement de partir d'une question qui nous est propre et d'étudier des pistes de résolution. Alors, 2 mots sur la recherche, lire, écrire des scènes romanesques. En fait, on sait depuis un bon moment que dans les rapports entre lecture et écriture en France, on commence par la lecture. Donc, première question, est-ce que c'est une nécessité ? Deuxième question, il y a un problème que rencontrent nombre d'enseignants de français, c'est que les textes écrits par leurs élèves sont des textes squelettiques, qui ont souvent un peu l'apparence de résumés. Donc on s'est dit qu'une entrée, à l'époque je travaillais aussi beaucoup sur les analyses de récits, par les scènes, c'est-à-dire ces moments cruciaux, pouvait éventuellement permettre de résoudre ce problème-là. Et donc, on a mis en place un dispositif où on donnait une consigne aux élèves. Voilà, vous écrivez une scène, alors je vous dirai lesquelles après, ils écrivaient comme ils pouvaient, comme ils pouvaient. On regardait ensemble les problèmes que ça posait. Et deuxième phase, les élèves étaient entre guillemets nourris par les textes des profs ou des textes qu'ils pouvaient aller chercher sur ces scènes-là. Troisième temps, ils réécrivaient. Donc voilà, et c'est une recherche qui a montré que ce dispositif, qui n'est pas sorcier, hein, il faut être honnête, hein, produisait des effets intéressants. C'est-à-dire que rentrer par l'écriture permettait de plus grandes lectures et des lectures plus ciblées, et que le problème des récits squelettiques était en partie résolu. Alors vous voyez bien sur ce qu'on était arrivé tranquillement, et avec des problèmes qui parlaient aux enseignants. C'est-à-dire vraiment, c'était... pas un truc de chercheur en labo, mais voilà, on avait tout un matériau de texte qui permettait de voir que les problèmes étaient là. Donc très vite, ça a été compris par les enseignants. Ils hésitaient un peu pour savoir si ça allait marcher. Mais là, en même temps, on risquait pas d'aller à la catastrophe avec le dispositif qu'on mettait en place, on était d'accord. Après, la discussion qui a été intéressante, c'est effectivement quelle scène on choisit. Et où là, ça a été un tout petit peu plus compliqué à certains moments. Et là, il y a eu des discussions très, très intéressantes avec les maîtres. Et où on a du coup eu des phases d'approche où on tâtonnait. Mais par exemple, on a proposé de travailler sur des scènes de bagarre. Et les scènes de bagarre sont très, très intéressantes pour les profs de français. Parce que dans la mesure où les protagonistes, si vous voulez... sont très proches et se mêlent, etc. et tout. On a des problèmes pronominaux qui sont importants. Et il y a la nécessité aussi de distinguer des phases. C'est la même chose pour les scènes de dispute qu'on a proposées, où c'est très très intéressant, par exemple avec les gamins de milieu très populaire, la scène de dispute dégénère immédiatement. Bon. Et du coup, c'est assez intéressant, parce que c'est des textes qui ne sont pas développés. Donc du coup, ça permet une recherche de moyens. Comment s'y prennent un certain nombre d'auteurs pour développer ça? Et donc voilà. Et donc après ça, si vous voulez, c'est une recherche où globalement, au départ, c'est nous qui avons armé les enseignants pour qu'ils puissent s'armer après. C'est-à-dire que quand on a arrêté d'un commun accord ce travail-là, ils avaient un dispositif qui marchait, un dispositif qui les intéressait, qui permettait de résoudre un certain nombre de problèmes et des outils de réflexion sur le choix des scènes qu'ils allaient prendre. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez des possibilités. C'est-à-dire que je ne rentre pas du tout dans les débats idéologiques sur quelles sont les recherches préférables. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on fait effectivement cette recherche-là à ce moment-là. Pourquoi on accentue tel pôle ou pas tel autre? Pour le dire autrement, je trouve que la France meurt des débats idéologiques sur l'éducation et qu'il faut peut-être à certains moments en sortir et que malheureusement ces débats-là, ils arrivent y compris dans le champ des recherches. Vous avez les gens qui s'empaillent sur quelles sont les meilleures recherches, etc. Alors que je crois qu'il ne faut se priver d'aucune méthode, aucune technique, etc. Hein, on pourra y revenir, y compris les débats qui me semblent hallucinants sur méthode qualitative, quantitative, je ne comprends pas. Mais bon, voilà. Deuxième point, c'est gérer la diversité des logiques des acteurs. Ça, c'est quelque chose d'important, je crois, dans les recherches qu'on mène, c'est-à-dire que toute recherche est prise dans une multiplicité de logiques différentes. Et il faut le savoir, il faut arriver à gérer ça. Par exemple, sur la recherche sur cette école, vous voyez, pour les enseignants, il y avait la volonté de travailler ensemble, puisqu'ils venaient de différentes écoles, et il y avait aussi la volonté de montrer que la pédagogie Freinet pouvait être efficace en milieu populaire. Plus un autre truc, c'est devenir des référents dans le mouvement Freinet, ce qui n'est pas négligeable. Pour les IEN... pour l'IEN, plutôt, qui a permis ça, à qui je rends hommage, c'était redresser une école dont les classes fermaient et stimuler les autres écoles de sa circonscription. Pour les autorités académiques, c'était laisser un petit espace d'expérimentation, sans trop se mouiller pour certains, pour d'autres, en soutenant, en sous-main, mais pas trop officiellement. Hein. Bon. Pour les chercheurs, c'était avoir un travail de production de connaissances, mais aussi, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'utilité sociale de cette recherche qui me semblait patente par rapport à d'autres recherches qu'on pouvait faire. Puis, bien sûr, en tant que responsable de labo, je jouais aussi la reconnaissance de mon labo, si vous voulez, ça c'est clair. C'est logique, donc c'est différent, si vous voulez, mais elle traverse les groupes d'acteurs et chaque acteur, et ça peut être en conflit. Par exemple, les syndicats, d'un côté, ils veulent lutter contre l'échec scolaire, ils veulent éviter la fermeture des écoles, mais de l'autre, dans la mesure où c'était atypique et ça passait pas exactement par les traditions du mouvement, hein, même si les syndicats ont été associés, ça leur posait un gros, gros problème. Donc, il a fallu de grosses négociations avec certains syndicats. Les parents, ils étaient aussi ambivalents en milieu populaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a chez eux des souvenirs cuisants de l'école traditionnelle, mais en même temps, il y a une crainte devant quelque chose qu'ils ne connaissent pas, si vous voulez. Avec, du coup, un danger pour les expérimentations, toujours, c'est de voir une fuite des parents de milieu populaire qui sont remplacés par d'autres familles de milieux intermédiaires, ce qu'on voulait à tout prix éviter. Bon, pour les enseignants aussi, hein, les enseignants du mouvement Freinet ne sont pas forcément, au départ, les plus rassurés quand des chercheurs viennent là-dedans. Mais l'IEN a dit c'est ça ou c'est rien, donc ils ont dit ce sera ça. Mais en même temps, ils désiraient la recherche, parce qu'ils se disaient si ça marche, encore une fois, on va pouvoir se positionner. Pour moi, l'enjeu était, outre ce que je vous ai indiqué, c'était souder l'équipe, parce qu'une recherche comme ça permet véritablement des échanges, et ouvrir la didactique, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas refermée sur le système didactique et qu'elle prenne en compte la pédagogie. Je trouve qu'à certains moments, les didactiques deviennent un peu casse-pieds, à être enfermées et à avoir un discours parfois difficilement compréhensible. Hein. Bon, je ferme ma parenthèse. Ces logiques traversent les chercheurs eux-mêmes. Hein. Encore une fois, voilà, respecter les conditions de l'expérimentation, publier, c'est pas rien. Et petite parenthèse, c'est un problème de ceux qui font des thèses et qui sont enseignants, par exemple, à certains moments. Ils sont pris entre une véritable volonté de recherche et le doute, et puis l'apologie de certaines pratiques. Vous voyez, c'est un vrai problème. Ou alors, il y a une tension chez eux entre volonté de connaître et désir de prouver. Vous voyez, le truc prouver, voilà, ça, allez-y doucement pour prouver en sciences humaines. Hein. La convergence des indices, c'est quand même plus sérieux, à mon avis. En tout cas, si vous voulez, l'enjeu, c'est comment comprendre ces logiques différentes pour qu'elles ne constituent pas un facteur de blocage. Et ça, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que souvent, chacun des acteurs ou des catégories d'acteurs a tendance à considérer que l'enfer, c'est les autres, comme le disait un grand innovateur par le passé. En tout cas, la grande leçon de ma recherche que j'avais effectuée pour le HCE, si vous voulez, pour le Haut Conseil de l'éducation, quand il existait encore, puisque les conseils ont une durée de vie assez courte en France, c'était cette ignorance réciproque. Ignorance réciproque du travail et du fonctionnement des autres qui suscite des blocages. C'est-à-dire que l'autre, enseignant, IEN, chercheur, est construit comme une menace. Vous voyez, et je trouve que c'est un travail compliqué. Et là, c'est un travail véritablement de négociation, d'arriver à faire comprendre à chacun les logiques de fonctionnement de l'autre, et qu'il y a des choses, voilà, qu'on prend comme une atteinte, mais qui sont liées au fonctionnement de l'autre. Et donc ça, c'est très, très important. Et c'est, à mon avis, tout à fait sous-estimé. Et donc, un des problèmes qui va se poser, c'est pas forcément comment me protéger de l'autre, mais comment faciliter le travail des autres et comment les construire comme des aides. Vous voyez, alors que souvent, quand on essaye de faire des choses, on a tendance à vouloir garder des secrets, etc., etc. Et donc, c'est un peu compliqué pour une série de recherches que j'ai pu suivre. Voilà, c'était le cas. Il y avait une certaine opacité des deux côtés, d'ailleurs. Des deux côtés, hein, si vous voulez. Chacun pensant que son fonctionnement était connu, sa logique était contenue, et ses modalités de travail effectives aussi. Hein. C'est comme avec les gamins. Les élèves n'ont pas d'idée de comment le prof travaille chez lui sur les copies qu'il a. Et donc, à partir de là, tous les fantasmes sont possibles. Vous voyez ? Et donc, c'est assez intéressant de mettre ça à plat. Gérer les modes de fonctionnement différentiels d'appropriation, ça me semble quelque chose de fondamental. Dès qu'il y a un projet, comment dirais-je, l'importance pour moi, effectivement, bon, ça c'est bateau, c'est qu'il soit au maximum construit en commun, co-construit, comme disent certains, en tout cas que ce ne soit pas le fait d'un responsable d'établissement ou de deux profs. Il faut accepter aussi que l'adhésion à ce projet puisse se faire progressivement et pas forcément initialement, je crois. À trop vouloir une adhésion totale dès le départ, je crois que on va au-devant de problèmes. Mais c'est aussi accepter, c'est aussi faire en sorte de, comment dirais-je, réexpliquer le projet quand il va y avoir des nouveaux. Parce qu'à un certain moment, c'est un des gros problèmes des expérimentations, c'est que les anciens pensent que c'est connu et partagé, alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut véritablement des phases de réexplication, renégociation. Et il faut aussi, ce qui est plus compliqué pour les promoteurs et les anciens, accepter que les nouveaux puissent remettre en question le projet, au moins sur certains points. C'est-à-dire pour que l'histoire, qui est une richesse, ne devienne pas une source de blocage. Ce qui est en fait très très fréquent. Alors, on a des dispositifs différents qu'il s'agit de gérer. Hein. J'avais essayé, lors du colloque qu'évoquait Catherine, de dire qu'il y avait des dispositifs formels. Par exemple, nous, on avait un séminaire mensuel qui durait telle heure à telle heure, avec un temps de parole imposé, un ordre de la parole. On prenait les gens dans l'ordre. Et peu importait leur statut, ce qui évitait que certains monopolisent la parole au détriment des doctorants, par exemple, hein, ce qui est souvent le cas. Donc ça, on était très très strict. Donc du coup, ceux qui arrivaient dans l'équipe étaient un peu surpris, quoi, y compris des gens qui arrivaient comme profs et qui pensaient que leur parole était immédiatement plus légitime. Non, pas forcément. Donc voilà. Donc les réunions de bureau. Je reviendrai sur ces dispositifs formels. On avait des dispositifs semi-formels. Le terme est discutable. Hein. Par exemple, on avait un repas convivial du mercredi midi, mais qui était très régulier, avec un temps aussi donné, entre la fin de nos cours et le début des suivants, et qui était intéressant parce que c'était à la fois institué et en même temps on pouvait discuter de tas de choses, plus à bâton rompu, etc. Il y avait de la même manière le fonctionnement de la bibliothèque de labo, qui était tenu par les doctorants, le séminaire des doctorants eux-mêmes, qui, avaient leur liste propre auxquelles on n'accédait pas, etc. Donc ça, c'est des choses très, très importantes qui permettent des modes d'entrée différents. Par exemple, les doctorants communiquaient entre eux, et nous, on n'y avait pas accès. Mais du coup, c'était très intéressant, parce qu'ils disaient, tiens, j'ai pas compris ce qu'ils racontaient, ce qu'ils n'osaient pas forcément, en grand séminaire, quand on est 30 ou 40, poser comme question. Vous voyez, donc, ces lieux différents permettent une sécurité des gens. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on avait des dispositifs relativement informels, c'est-à-dire des moments véritablement de convivialité ou des rencontres individuelles improvisées. il me semble qu'il est important de respecter ces espaces, de voir s'ils fonctionnent bien et s'ils fonctionnent en convergence, de vérifier qu'ils permettent bien la liberté et le rythme de chacun. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que j'ai appris et que j'ai parfois sous-estimé. Et respecter les règles des dispositifs formels. Or là, dès que c'est des dispositifs formels, à mon avis, on ne peut pas se permettre de transiger là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, il y a au moins 6 choses, vous les connaissez sans doute, mais que l'ordre du jour soit prévu, bâti en commun et envoyé à l'avance, avec les documents nécessaires. Sans ça, ça ne permet pas de travail. Sérieux. Que les horaires soient respectés. On commence à leur indiquer, on finit à leur indiquer. Parce que ça, c'est aussi un motif de prise de distance des gens. Et quand on ne commence pas à l'heure, et quand on ne finit pas à l'heure, des règles de parole strictes, comme celles que je vous ai énoncées, c'est à vous de choisir lesquelles vous vous donnez, mais c'est quelque chose de très très important, y compris on peut limiter le temps de parole de chacun. Quelles sont les modalités de prise de parole? Et moi, je suis véritablement pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne les demandes d'intervention et qui les donne, si vous voulez. Quels sont les rôles qui sont impartis? Qui est, par exemple, celui qui distribue la parole, etc. Dans certaines réunions, par exemple, dans une recherche que j'ai suivie, où les gens se réunissent tard le soir, il y a comme rôle un cuisinier, cuisinier tournant. L'un des profs est cuisinier. Bon, voilà. On peut avoir des tas de rôles différents. Et puis, des décisions explicites, mais avec des reports et des possibilités de remise... on peut revenir dessus et des possibilités de remise en cause, mais il faut des décisions explicites. Il faut qu'elles soient notées. Et puis, il faut aussi un compte-rendu précis et rapide. À mon avis, 48 heures, c'est le maximum. Je sais que c'est lourd comme contrainte, mais sans ça, après, les infos se perdent, on ne sait plus, on ne s'organise pas comme ça. Voilà. Après, on peut en discuter, hein, mais pour moi, ce sont des conditions indispensables de fonctionnement. Avec un problème à gérer, qui n'est pas simple, c'est comment on fait la part entre, comment dirais-je, ce qui est rôle qu'on construit et ce qui constitue des rôles qui s'imposent dans le groupe, où vous avez de facto souvent des leaders, des locomotives, etc. et tout. Et donc ça, c'est un véritable problème, mais que je trouve très, 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 très intéressant. Avec, en tout cas, quelque chose qui est... Deux choses encore que je rajouterai là-dessus, c'est réfléchir à la possibilité de dire les problèmes. Très souvent, les groupes meurent parce qu'on ne peut pas dire les problèmes. D'où l'importance de ces différents dispositifs formels, semi-formels, informels. Il faut qu'il y ait des lieux où les problèmes puissent se dire. Et puis, respecter les modalités d'intégration de chacun. Ça, c'est aussi important. Je crois que ce n'est pas parce que certains se taisent qu'ils ne s'intègrent pas. C'est comme dans les classes. Hein. La participation, elle peut être absolument silencieuse. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il n'y a rien de pire que de vouloir faire parler quelqu'un. Vous voyez, on a les moyens de vous faire parler. Ben non, ça, c'est un vrai problème, si vous voulez. Donc, je crois que c'est quelque chose de très, très important à respecter. Gérer les distances, je vais aller un peu plus vite parce que c'est moins fondamental, mais c'est vrai qu'il y a des distances qui sont liées au statut, au rôle, aux relations de pouvoir, entre les chercheurs et les enseignants, le prof et ses doctorants, etc. et tout. Et donc je ne suis pas pour que ceci ne soit pas posé à certains moments, si vous voulez. Donc Moi, je trouve que c'est important de les poser, de voir comment on gère cela et de ne pas faire comme si tout le monde était pareil. Voilà, je le dis très clairement, si vous voulez. Alors moi, il y a des trucs que j'aime pas. Par exemple, tous chercheurs. Bon. Vous voyez, il y a eu un numéro des cahiers pédagogiques qui remonte très très loin. Et j'aime bien les cahiers de pédagogie, puisque je suis aussi au comité de rédaction. Mais je suis arrivé plus tard. Qui s'intitulait « Tous chercheurs ». Ouais, et alors ? Si tout le monde est chercheur, plus personne n'est chercheur. C'est assez simple, hein. Donc, est-ce qu'il y a une spécificité du travail du chercheur ? Ce qui n'empêche pas les enseignants d'être en recherche, voire d'être chercheurs s'ils s'engagent dans des procédures, dans des travaux de recherche. Mais je n'aime pas le flou et la confusion, et je trouve que c'est important de mettre ça sur la table. Alors, y compris sous des formes basiques, hein. Une des dernières discussions que j'ai eues dans une des recherches, c'était « Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vouvoie ?» Ce n'est pas une discussion anecdotique. Donc on a échangé là-dessus et sur nos positions, etc. Alors il est clair aussi que ça dépend, par exemple, des modalités de recherche qu'on choisit. Par exemple, si on est dans une recherche un peu plus de type ethno, là, les distances ne sont pas les mêmes. Hein. Et parfois, on est obligé de rentrer entièrement dans les systèmes de l'autre pour comprendre. Hein. C'était le cas de Loïc Vacan sur la boxe. C'était le cas de Jeannette Favre-Sada sur la sorcellerie dans le bocage. Donc, ça dépend aussi hein, de l'objet qu'on travaille. Hein. Ça dépend aussi de la situation sociale au sein de laquelle s'insère votre recherche. Quand on a fait le travail sur l'école Freinet, il fallait qu'on garde nos distances, puisqu'on n'allait pas publier pendant un moment, et puisque les recherches sur les écoles qui pratiquaient la pédagogie Freinet étaient soupçonnées régulièrement de connivence, ce qui était d'ailleurs pas entièrement faux sur certains points. Et donc il fallait se garder de ce reproche-là. Donc vous voyez que ça dépend de tas de facteurs. Ce n'est pas une position, là encore, idéologique, etc. Voilà. En même temps, je trouve que c'est très, très important. Et donc ça permet de conserver aussi son identité à chacun. Son pouvoir de résister ou de dire non en tant que groupe. C'est important hein, que les chercheurs puissent dire non aux enseignants. Nous, on l'avait dit dans cette recherche-là. Il y avait des questions qui étaient les leurs et que nous, on ne traitait pas, qui n'étaient pas les nôtres. Si vous voulez, et les enseignants doivent pouvoir dire non à certaines demandes. Et du coup, c'est aussi important de respecter certaines zones, plus ou moins intimes, le terme est mal choisi, de chacun. Par exemple, dans la recherche qu'on fait sur ce groupe d'enseignants, qui nous ont ouvert largement leurs outils, Dropbox, etc., c'est seulement quand on a mené des entretiens un peu poussés qui nous ont dit, très gentiment d'ailleurs tous, qui s'échangeaient aussi des choses sur WhatsApp. Mais là, pas question, ils ne nous ont pas proposé, c'est leur espace. Et donc, effectivement, de la même manière que nous, on a notre espace. Alors sur ce, vous voyez, c'est intéressant de le savoir. C'est vraiment intéressant, ça permet de voir les outils qui se donnent et comment ils fonctionnent. Mais aussi, c'est quelque chose de fondamental à respecter. Et donc, un des enjeux, c'est de transformer les distances initiales, faites de crainte, d'envie, etc., en distances de travail qui rendent possible le travail. Et donc, il y a un temps nécessaire. Voilà. Une chose importante étant la confiance et la bienveillance. Hein. Même si on garde nos distances, je crois qu'une chose fondamentale pour les enseignants, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, qu'on arrive sans a priori, qu'on se donne le temps de comprendre pour les chercheurs. Et puis le fait, et ça, ils nous le demandent à chaque fois sous des formes différentes, même si on n'intervient pas, etc., quand même, de leur dire s'ils se fourvoient totalement, si vous voulez. Ça, c'est-à-dire qu'on a un garde-fou quelque part et on ne peut pas échapper, je crois, à ce rôle-là. Avoir l'idée aussi de préparer le temps de sortie de la recherche. C'est-à-dire l'ouverture à d'autres recherches collectives, individuelles. et puis de préparer, de réfléchir aux dons et aux contre-dons, c'est-à-dire les rapports, le fait qu'on aille dans certains congrès qui sont importants pour eux, pour parler, le fait qu'on puisse écrire des articles en commun, on a parlé, le fait que certains s'engagent dans un M2 après, etc. Gérer les pratiques d'écriture, je crois que c'est important de s'emparer de l'écriture, non comme contrainte, mais comme outil intellectuel. Alors la référence la plus connue en France, c'est Goudy. Bon, sachez que Goudy est simplement l'un de ceux qui a travaillé là-dessus. C'est très intéressant. Mais c'est-à-dire penser que les pratiques d'écriture peuvent être non pas une charge, mais une aide à l'action et à la pensée, en articulant fonction transcriptive, on transcrit ce qui a été pensé, et fonction constructive, c'est-à-dire que on va générer des connaissances, etc. J'insiste là-dessus parce qu'à mon avis, les deux fonctions sont liées. Et il y a nombre de discours à l'heure actuelle qui font comme si le seul truc important, c'était la fonction constructive et tout. Non, les deux fonctions s'articulent constamment. Constamment. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ça permet des tas de choses. Ça permet, bien sûr, de fixer les choses à l'identique et donc de revenir sur des pistes qu'on avait pensées et qu'on a oubliées. Ça permet de voir ce qui n'était pas tout à fait clair. Et ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'il faut écrire beaucoup et constamment. Hein. Ça permet aussi... comment dirais-je, l'accumulation des choses, donc de comparer où on en était, où on est arrivé. Parfois, on est très, très étonné en reprenant ces écrits du début. Ça permet d'articuler l'hétérogène, ce que je lis, ce que je vis comme expérience pratique, ce que j'observe, les formations, etc. L'écriture, c'est un lieu d'articulation. Hein. Il n'y en a pas tellement d'autres. Et puis, ça permet de varier les formalisations. Hein, vous avez ce qui est purement du langagier, mais aussi vous avez de l'iconique avec les tableaux, les schémas, etc. Ce qui est moins possible au niveau de l'oral. Hein. Donc ça veut dire écrire toujours et encore. Et archiver, et trouver une manière d'archiver pour permettre un usage commun. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'écrire de manière diversifiée. C'est-à-dire qu'il y a les comptes rendus. Dans une recherche là que je mène, moi, j'envoie aussi des questions par mail. Ils me répondent aussi par mail. Donc ça, ça rentre dans l'archivage, si vous voulez. Il y a les témoignages. Il y a les articles de chacun. Et à côté de ce qui peut être une écriture un peu distanciée, un peu réflexive, je trouve que c'est intéressant d'avoir des moments d'écriture projective. J'aime, j'aime pas, ce que j'associe à, etc. C'est important parce que ça permet d'autres entrées, de voir des lieux de résistance ou des lieux où on bouge. Et y compris, hein, il y a une collègue là qui fait un travail extraordinaire sur la dernière recherche qu'on mène, c'est d'essayer de reconstituer très précisément l'histoire de la recherche. Vous voyez, c'est très... Mais alors, dans le détail. Et c'est très, très intéressant les problèmes que ça soulève. Par exemple, est-ce qu'on peut tout dire et tout partager ? À quel moment je rechigne à dire et à partager ? Qu'est-ce que ça révèle comme problème, etc. En sachant que tout ne sera pas forcément lu, mais tout peut être lu. Écrire pour valoriser, je trouve que c'est important, et ça c'est à prévoir, ça a été dit par quelqu'un auparavant. Et donc là, il faut clarifier la responsabilité de chacun. Et à mon avis, c'est peut-être un rôle important des chercheurs aussi d'accompagner ça en essayant, et je suis à cheval sur le 5-5, en essayant au maximum d'écrire des textes coopératifs, c'est-à-dire des textes qui puissent être lus simplement par d'autres. Et donc, ce n'est pas la peine de citer toutes les deux phrases Wittgenstein, Ricoeur... telle ou telle théorie, co-construction, et j'en rajoute, avant c'était zone proximale, puis on a eu encore d'autres trucs. Je veux dire, il faut être quand même... C'est une écriture où on essaye de faire comprendre à d'autres ce qu'on fait pour qu'ils puissent s'en emparer et où on ne multiplie pas les obstacles. Multiplier les obstacles, c'est en quelque sorte dire « regardez comme je suis intelligent », ce qui n'est peut-être pas le gros enjeu de ce genre de travaux. Donc je préfère 100 fois des textes qui soient plus clairs qu'abscons et qui évitent, autant que faire se peut, l'air du temps. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est écrire pour valoriser et pour permettre de rentrer dans d'autres écritures. Par exemple, il y a un certain nombre de collègues avec qui on a travaillé, voilà, qui sont rentrés après dans différents autres types de mémoires ou dans d'autres trajets. Donc là, pour nous, c'est quelque chose d'intéressant. Si pour eux, ça correspond à un projet, il me reste... Cinq minutes et on aura encore un peu de temps pour discuter. Alors, très vite, sur la question de l'évaluation. Alors, en sachant qu'on demande toujours plus aux gens qui expérimentent et qui innovent. C'est un truc assez curieux. Hein. Ceux qui ne bougent pas, qui sont dans les routines, on ne leur demande rien. Mais les autres, il faut les évaluer quand même, qu'on voit bien la plus-value, etc. Bon, c'est à mettre dans le dossier des injonctions paradoxales. Alors, quelques principes possibles pour les équipes enseignantes, et vous en faites ce que vous voulez, parce que je suis en train d'essayer de travailler là-dessus. Une évaluation, comment dirais-je, ça doit aider à comprendre. C'est-à-dire qu'on bouge, on change de point de vue. On essaye de sortir à certains moments le nez du guidon et on peut confronter les points de vue. Mais fondamentalement, il faut que ça soit un outil d'aide et pas un obstacle. Ça doit aussi favoriser la communication interne au sein de l'espace qui associe chercheurs et enseignants et externe par rapport à l'institution. Autant que faire se peut, ça doit être relativement motivant, c'est-à-dire pas trop casse-pieds. Hein. Il y a des trucs invraisemblables que je vois passer, où vous avez des trucs avec je ne sais pas combien d'items, on ne sait pas comment répondre, vous avez des échelles où on se dit, bon, est-ce que je mets 3, 4 bon. Voilà, donc il faut, ça veut dire qu'il faut que ce soit pas trop lourd. Trop d'évaluation tue l'évaluation. C'était une des grandes leçons du rapport HCE. Les équipes qui expérimentaient disaient « on n'en peut plus de l'expérimentation ». Moyennant quoi, elles faisaient n'importe quoi. Et on comprend, pour expédier le problème. Donc ça ne va pas. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, il ne faut pas que ce soit trop fréquent, et il ne faut pas que ce soit plus que dans d'autres écoles, forcément. Hein, c'est, voilà. Et puis, reproductible. Une question de la reproductibilité, quand même. C'est important d'avoir quelques jalons de comparaison. Au début, on en était au début. On est arrivé. C'est pour ça que la question est fondamentale. Parce que la question va déterminer des objectifs aussi et des indicateurs. S'il n'y a pas de question, ce n'est pas la peine. Une recherche, c'est rien d'autre qu'une tentative de réponse instrumentée à une question. Mais donc, regardez si vous avez bien votre question. Et vous l'avez bien quand vous êtes capable de la formuler en une phrase que n'importe qui soit capable de comprendre à peu près, si vous voulez. Si vous êtes obligé d'introduire six subordonnés, ça ne va pas. Donc, voilà, c'est quelque chose d'important, les comparaisons, et aussi les comparaisons avec d'autres écoles, pour voir effectivement, du coup, qu'est-ce qu'on peut attribuer à l'expérimentation, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'à certains moments, voilà, le fait qu'il y ait des chercheurs avec un temps un peu plus important peut être quelque chose de facilitant. De même, le soutien des corps d'inspection. Hein. C'est quelque chose de déterminant dans ces cas-là. Pour les équipes de recherche, je dirais volontiers que moi, ce qui m'a toujours semblé important, c'est le croisement des quatre théoriques. J'ai toujours été très, très méfiant, voilà, quand on disait, voilà, on va suivre une expérimentation ou tel travail avec un seul cadre théorique. Un cadre théorique, c'est bien, mais ça ne regarde que ce qu'il y a dans son cadre, hein, pas ce qu'il y a en dehors, si vous voulez. Et vous avez des cadres didactiques, sociologie, psychologie, neurosciences, ethno, etc. C'est différent et ça permet de voir et de comprendre des choses différentes et de comparer, c'est quelque chose d'important. De même, les méthodes de recueil et de traitement. On peut travailler par observation, entretien, questionnaire, production sollicitée ou pas sollicitée. Si vous voulez, ce que j'essaye de dire derrière, c'est que je pense que prouver dans le domaine des sciences humaines est compliqué. Même ailleurs, hein, quand on lit un certain nombre de travaux d'épistémologie, etc., bon, même ailleurs. La question de la preuve est une question pas simple. Bon, mais en sciences humaines, disons particulièrement. Mais à partir du moment où on a travaillé avec différents cadres et différentes techniques, si ça se conjoint, c'est un bon indicateur quand même qu'il y a quelque chose sur quoi on peut dire que ça va. Pensez aussi à la diversité des objets, parce que parfois, ce que vous mettez en place en traitant telle question peut avoir des effets sur autre chose. C'est toujours bien d'avoir un coup de sonde. Hein. Il y avait une recherche intéressante sur un pays africain et la mise en œuvre, une formation en pédagogie, dans une pédagogie alternative, où il s'avère que, par rapport à ce qui était visé, peu de résultats. En revanche, un résultat sur la baisse des châtiments corporels. Oui, c'est intéressant, hein, le texte libre. Voilà, c'est entraîné ça. Alors après, il faut essayer de comprendre. Hein, c'est un truc. Mais c'est marrant, justement, en recherche, quand on ne comprend pas au début, c'est ce qui est intéressant. Et donc, voilà. Et pensez toujours à la diversité des personnels de service, des acteurs. Je veux dire par là que, dans les recherches, j'ai toujours travaillé en faisant des entretiens et des observations avec profs, élèves, anciens élèves, parents, personnel de passage et personnel de service. Le personnel de service voit énormément de choses, mais je le vois très rarement hein, présent dans les recherches qui sont menées. Voilà, désolé du temps que j'ai passé. J'ai fini. Merci de votre attention.